Ok. On va dire que tout le monde est revenu. Donc cette méditation sur l'équanimité, on nous dit dans les enseignements qu'il va nous falloir y méditer pendant longtemps en fait. C'est pas juste en faisant la pratique une fois qu'on va réussir à générer vraiment cette réalisation. Donc c'est une méditation. Souvent, on n'a pas trop envie de la faire, cette méditation-là. On a envie d'aller directement dans les étapes suivantes hein, de la méditation sur Bodhicitta. Elle est pas très sympa, je sais pas, elle nous plaît pas trop en général. Mais en fait, elle est vraiment très très importante. C'est la base hein, sur laquelle on pourra construire après les autres méditations sur Bodhicitta. Ok. Bon, bah écoutez, on va s'engager dans les six causes et un effet. Jusqu'à 17h, ça me semble bien. Donc je vais vous proposer en fait de faire la même façon. Je vais vous guider dans une méditation sur les six causes et un effet. Et puis après, ben voilà. On pourra avoir un petit temps d'échange. On pourra aussi en reparler demain matin. En les six causes, en effet, le point le plus important, c'est le premier, en fait. C'est la reconnaissance que tous les êtres ont été notre mère. Et en fait, c'est le point qui est vraiment... On dit dans le Lamrim, il y a deux points... Les deux points les plus difficiles à réaliser, c'est ce point-là, la reconnaissance que tous les êtres ont été notre mère. Et le deuxième, vous savez ce que c'est le plus difficile à réaliser ? La vacuité ? Non. C'était un piège. J'avoue. C'est la dévotion au maître. Voir le maître comme un Bouddha. Ça, c'est... Voilà. Mais en fait, oui, on pense, à chaque fois, on pense la vacuité. Mais en fait, non, la vacuité, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. Donc, j'espère que vous avez pris un bon thé. Plein d'énergie. Et une fois, ouais. Alors l'équanimité, elle n'est pas listée parce que c'est un préliminaire. Et c'est le même préliminaire pour les deux méthodes, que ce soit les six causes en effet ou l'égalisation, l'échange de soi avec autrui. C'est pour ça que c'est une méditation vraiment très importante. C'est comme sinon, si on se précipitait là pour mettre les briques de la maison. Mais on ne s'est pas assuré de la qualité, de la stabilité du terrain sur lequel on construit, quoi. Okay. Donc à nouveau, on peut prendre une posture appropriée pour la méditation. On raffermit notre motivation, notre intention. d'extraire l'essence de cette vie, de lui donner tout son sens, de développer notre plein potentiel. Et quoi de plus bénéfique que de s'engager dans la méditation pour générer l'esprit d'éveil. Et là, dans le cadre de cette méditation, on s'interroge sur la nature de notre courant de conscience. C'est peut-être une des méditations que vous avez déjà faites sur la nature de continuité de notre courant de conscience. De se rendre compte que notre esprit est comme un fleuve qui s'écoule. Et que chaque instant est la continuité d'un instant précédent de même nature. Notre courant de conscience est immatériel. Dit que la définition de l'esprit, c'est d'être clair et connaissant. C'est quelque chose d'immatériel. Donc aujourd'hui, on est présent, on est conscient. Et notre esprit d'aujourd'hui est la continuation de l'esprit d'hier. Pendant le sommeil, on est tombé dans un état d'inconscience. Quand on s'est réveillé ce matin, on a repris conscience. Quand on se réveille, comme si on revenait à nous-mêmes après ce temps de repos. Et notre esprit de ce matin est la continuation, la continuité de l'esprit d'hier soir. Et l'esprit d'hier, lui-même, est la continuité de l'esprit d'avant-hier. Donc on établit comme ça, par la logique, qu'il y a une continuité dans notre esprit. Bien sûr, notre paysage mental intérieur, il varie. Il y a des moments de joie, des moments de tristesse. Au sein de notre esprit, ça varie, même au cours d'une journée, même au cours d'une seule heure. Mais il y a toujours une continuité. C'est comme un grand fleuve qui s'écoule constamment, sans jamais s'arrêter. On ne devient pas une nouvelle personne quand on se réveille le matin. Il y a une continuité avec notre esprit de la veille. Donc on remonte comme ça le fleuve de notre courant de conscience. Donc, il y a une continuité avec l'esprit d'hier, l'esprit d'avant-hier, et ainsi de suite, l'esprit de la semaine dernière, du mois dernier, de l'année dernière, 2023. 2022, 2021. On remonte comme ça, on remonte. Il s'est passé différentes choses dans notre vie, bien sûr. À chaque fois, bien sûr, il y a eu cette continuité. Donc on remonte. Pensez quand on était bien plus jeune qu'à l'heure actuelle, quand on avait 20 ans, par exemple. Ouais, il y avait encore, bien sûr, c'était le même esprit, une continuité de notre esprit. Mais il y a eu tout un tas d'évolutions, tout un tas de changements. Continue à remonter comme ça, lors de notre adolescence, notre enfance, quand on était un petit bébé, on se souvient du premier souvenir qu'on a. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ce premier souvenir? Est-ce qu'il s'est rien passé avant? Ben non, bien sûr, il s'est passé plein de choses avant. C'est pas parce qu'on s'en souvient pas que ça s'est pas passé. Comme ça, on continue à remonter jusqu'à notre naissance. Qu'est-ce qui s'est passé à notre naissance? D'un point de vue physique, on est sorti du ventre de notre mère. Notre corps était suffisamment développé pour pouvoir vivre à l'extérieur de notre mère. Qu'est-ce qui s'est passé quand notre corps est en train de se développer? On peut penser à tous les différents stades de croissance dans la matrice. Okay. Donc ça concerne notre corps. Puis notre corps, il était conçu au moment de la rencontre de nos parents. L'ovule de la mère, le spermatozoïde du père, qui se sont rencontrés pour créer un nouveau corps, un potentiel de corps, à ce stade-là. Et notre esprit, d'où est-ce qu'il vient ? Est-ce qu'il y a un bout de l'esprit de notre père, un bout de l'esprit de notre mère, qui se sont réunis pour créer un nouvel esprit ? Comment ça serait possible, ça, que quelque chose de matériel, ce qui vient de nos parents, ça puisse donner, ça puisse créer quelque chose d'immatériel ? Est-ce que c'est possible ? D'où est-ce qu'il vient, notre esprit ? On est composé d'un corps, d'un esprit. Notre corps, on sait d'où il vient, ça c'est bien expliqué par la science, il n'y a pas de problème. Mais d'où vient notre esprit ? Qu'est-ce qu'il aurait pu. S'il a été créé au moment de la conception ou au moment de la naissance, qu'est-ce qu'il a créé ? Qu'est-ce qui aurait pu le créer à ce moment-là ? La conscience ne peut provenir que d'un élément de même nature, c'est-à-dire un élément immatériel. Étant immatériel, en toute logique, elle ne peut pas être issue d'un élément physique, un élément matériel. Dans les enseignements, on nous dit, vous avez, il y a un module que vous avez déjà étudié qui nous explique au moment de la rencontre de nos parents, où ils ont donné le moment, ils ont donné naissance à une nouvelle forme de vie, ils ont créé une nouvelle forme de vie. Et bien notre esprit, il se trouvait, notre continuum mental se trouvait dans l'état intermédiaire, ce qu'on appelle le bardo, qui est l'état entre deux formes de vie incarnées, deux formes de vie dans un corps, liées à un corps. Donc on était dans cet état transitoire, notre esprit était dans cet état transitoire. Et par la force de nos karmas, on a été attiré, on s'est joint à cet embryon de vie physique qui était en train de se créer. Donc ça veut dire que peu de temps avant, on avait un autre corps, on avait une autre enveloppe, un autre support matériel à notre esprit, à notre courant de conscience. Et puis cette enveloppe corporelle précédente, alors on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, elle a cessé de fonctionner. Ça, c'était juste pas. À cause de la vieillesse, peut-être qu'il y a eu une maladie, peut-être un accident. Il s'est passé quelque chose et cette vie précédente s'est terminée. Notre corps physique ne pouvait plus maintenir la vie. Donc, il y a ce qu'on appelle la mort. Mais la mort, elle concerne uniquement le corps. L'esprit, il n'est pas affecté par ça. Par le fait que le corps, il puisse plus se maintenir. Notre esprit, donc, il est allé dans cet état intermédiaire. Et depuis cet état intermédiaire, il a trouvé un nouveau corps. Quand nos parents se sont unis. Est-ce qu'on peut concevoir cela? Et si on arrive à dire, peut-être c'est une forme de doute qu'on a dans notre esprit. Peut-être c'est un doute qui tend vers le oui ou c'est un doute qui tend vers le non. Et si c'est un doute qui tend vers le oui, on dit effectivement, c'est quand même c'est une explication qui semble logique. Parce qu'effectivement, mon esprit ne peut pas venir de mes parents. Et d'où est-ce qu'il pourrait venir sinon? À part venir de ce courant de conscience qui cherchait effectivement une forme corporelle quand il était dans le bardo. Donc si on établit ça, c'est-à-dire donc en fait, ce processus-là, il s'est produit plein de fois. C'est pas juste ma vie précédente et cette vie actuelle, mais mon courant de conscience, il remonte comme ça tout le long de ma vie précédente dans ce corps que j'avais avant. Et avant cette vie précédente, il y a eu encore une autre vie précédente, etc., etc., etc. Comme un fleuve qui s'écoule. Ce courant de conscience qui continue à s'écouler de vie en vie. Au sein de chacune de ces vies, on a un corps différent, on trouve un autre corps. Et en fait, on n'arrive pas à trouver de commencement à notre courant de conscience, à notre esprit, à ce fleuve. On dit le samsara est sans commencement. Donc ça veut dire qu'on a assumé, on a pris tout un tas de corps, tout un tas de supports corporels pour notre courant de conscience. On a eu des corps humains, des corps de femmes, des corps d'hommes, des corps d'Européens, des corps d'Asiatiques, des corps d'Africains, tout un tas de corps différents. Et pas seulement humains, on a pu aussi prendre des corps d'animaux, d'oiseaux, de chats, de chiens, d'éléphants, de poules. Toutes ces formes de vie qu'on peut observer, tous ces différents corps, c'est possible qu'à un moment, notre esprit était joint à un corps de ce type-là. Donc ça veut dire que dans toutes ces vies, il y a des êtres qui nous ont donné la vie. À chaque fois qu'on a pris naissance d'un corps humain, un petit bébé humain, on avait des parents humains. Quand on a pris naissance dans un corps comme un petit chaton, on avait des parents chats. Comme un petit oisillon, on avait des parents oiseaux. Donc, comme ça, si on a eu un nombre de corps infini, ça veut dire qu'aussi on a eu un nombre de parents infinis. Donc si on peut se représenter qu'on a pris, je sais pas, une centaine de naissances avant notre naissance actuelle, notre vie actuelle, c'est-à-dire qu'on est une centaine de personnes qui nous ont donné la vie, de mères. Si on arrive à se représenter qu'il y en a eu des milliers de corps qu'on a pris, alors on a eu des milliers de mères. Si on arrive à se représenter que le nombre était de nos vies a été infini, illimité, sans commencement, alors ça veut dire qu'on a eu un nombre de mères infini, illimité, sans commencement. Donc ça veut dire qu'un moment ou un autre, tous les êtres ont été nos parents. Et dans chacune de ces vies, nos parents, en particulier notre mère, ça peut être une autre personne, peu importe, en fait, peu importe. Dans toutes ces vies-là, il y a forcément eu quelqu'un qui a pris soin de nous. Quand on était un tout petit bébé, si personne n'avait pris soin de nous, on n'aurait pas survécu. On ne savait rien faire, on ne savait pas se nourrir, on ne savait pas se protéger du froid, de la chaleur. On était complètement à la merci des autres. Si on nous avait laissés tout seuls, on serait morts. Donc c'est certain, il y a quelqu'un, au moins une personne, qui a pris soin de nous. Bien souvent, c'était notre mère. Ça peut aussi être d'autres personnes qui ont pris le rôle de la mère, du père. Peut-être un grand frère, une grande sœur, quelqu'un d'autre. Dans toutes ces vies, on a eu quelqu'un, au moins une personne par vie, qui a pris soin de nous. Souvent, c'était bien plus qu'une personne, en fait. Mais au minimum, il y a une personne, sinon on n'aurait pas pu être en vie, rester en vie. Et ces personnes qui ont pris soin de nous, elles l'ont fait sans se soucier de leur propre fatigue, sans se soucier... si elles n'avaient pas beaucoup à manger, elles nous ont donné la nourriture en priorité. Donc elles ont assumé tout un tas de difficultés pour qu'on puisse grandir, se développer. Et nous, naturellement, nous, dans notre cœur, en se rappelant de tout ça, on a envie de pouvoir à nouveau aider ces êtres, tous ces êtres qui ont pris soin de nous quand on était incapable de prendre soin de nous-mêmes, qui nous ont permis de grandir. On a envie de les aider à notre tour. Peut-être que maintenant, ces êtres, ils sont âgés, peut-être qu'ils souffrent. Peut-être qu'ils ont des difficultés. Donc on génère dans notre cœur un sentiment d'amour pour ces êtres de façon vraiment très naturelle, en se rappelant comment ils ont pris soin de nous quand on était complètement démunis. Mais on a envie que ces personnes-là, elles soient heureuses. On ressent, puissent-elles être heureuses ? Puisse-t-elle être heureuse? Et on ressent, puisse-t-elle être libérée de leur souffrance? Si ces personnes-là elles sont dans une situation de souffrance, naturellement, on a ce souhait qui s'élève dans notre cœur, puissent-elles être libérées de leur souffrance. Et puis on pense, moi-même, je vais les libérer de leur souffrance. Parce que si je le fais pas, qui d'autre le fera ? Donc on prend la responsabilité de nous-mêmes les libérer de leur souffrance. Comment faire pour les libérer de leur souffrance ? Il nous faut nous-mêmes développer notre plein potentiel, les capacités de notre esprit, rendre manifeste notre véritable nature, devenir nous-mêmes Bouddha. Pour être bénéfique à tous ces êtres qui ont été nos parents, qui ont pris soin de nous, qui maintenant souffrent dans le samsara, on va nous-mêmes atteindre l'éveil. Donc ainsi, on génère la bodhicitta. Quand on arrive à la générer, on essaie de la maintenir grâce à la concentration, à la stabilité de notre esprit. On essaie de rester dans cette bodhicitta. Donc si par cette méditation, on est parvenu à générer, juste pendant quelques secondes, juste un éclair de bodhicitta, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Si on est parvenu à générer cet esprit, vraiment on se réjouit. Et c'est ok, donc je vais poursuivre la méditation en utilisant cette technique. Je vais m'y entraîner encore et encore pour réussir à développer, à renforcer cet esprit d'éveil. Si on n'a pas réussi, parce qu'il y a un point dans le raisonnement, on a des doutes qui font qu'on n'arrive pas. Et on se dit ok, donc on note à quel moment il y a eu comme un blocage pour voir si peut-être il faut étudier un peu plus ce point-là, réfléchir un petit peu plus à ce point-là, l'examiner davantage pour dissiper ces doutes qui nous empêchent de poursuivre la méditation. Bien sûr, on va. C'est une énergie incroyablement bénéfique qu'on a générée. Ce qui est important, c'est vraiment de développer de la réjouissance, de la joie. Qu'on ait réussi ou pas à générer bodhicitta, rien que le fait d'essayer de générer cet esprit, d'avoir cette intention, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est extrêmement précieux. C'est comme un athlète, hein. Quelqu'un qui s'entraîne pour aller au JO, c'est son but, mais ça, évidemment, lors de son premier entraînement, il ne va pas avoir des très bons résultats. Il faut faut s'entraîner encore et encore et encore. Ce qui compte, c'est de chaque jour de s'entraîner. Donc on dédie l'énergie positive qu'on a créée par cette journée à étudier bodhicitta, méditer sur bodhicitta, réfléchir, essayer de clarifier nos doutes, nos incertitudes. On puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas déjà né, ne pas dégénérer là où il est déjà né et s'accroître de plus en plus. Donc c'est important, c'est pas les mots, c'est vraiment le sens. Essayer de vraiment ressentir comme ça serait formidable si ce précieux esprit d'éveil pouvait naître dans le cœur de tous les êtres et s'il pouvait être renforcé, pleinement développé dans le cœur de tous les êtres où il a commencé à naître. Merci.